Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. On vous emmène dans un univers qui nous est familier, mais auquel nous ne prêtons pas forcément attention, celui de la fabrication des équipements de sport et de loisirs. Quand vous jouez au ping-pong, il y a de fortes chances que la table de ping-pong vienne de Toulouse. Jean-François Ternano de la société Cifadis est notre invité. Bonjour Jean-François Ternano.
Bonjour.
Vous êtes installé près de Toulouse. Le nom de votre entreprise, c'est Cifadis.
Exactement.
Et vous êtes plutôt connu sous le nom de Balia. C'est la marque que vous distribuez.
Exactement. C'est la marque créée, conçue en 2000 pour s'orienter vers des produits ludiques à destination du grand public pour les espaces publics.
Espaces publics, c'est-à-dire les parcs.
Parcs, jardins, écoles, campings, hôtels. Et un petit peu aussi des particuliers.
Mais vous êtes partout alors? On vous voit partout, mais comme je disais en ouverture, on vous voit partout, mais en fait on ne vous voit pas vraiment.
Non, on voit le produit, et puis c'est un produit qui est utilisé par les gens.
Ouais.
Et on ne va pas forcément rechercher une marque sur ces produits-là.
C'est ça, tout à fait.
On est très très utilisé. Les gens pratiquent le tennis de table sur des tables en plein air et souvent sur nos tables.
Alors on va revenir, on va expliquer donc à nos auditeurs comment sont fabriquées ces tables, puisque vous fabriquez des équipements de sport, de loisirs en matériaux composites. En fait, vous pourriez aussi faire des avions.
On pourrait.
Racontez-nous l'histoire de votre entreprise. Alors, quand avez-vous commencé?
Alors,
et surtout comment?
L'entreprise, au départ, a été créée en 1980. C'était un atelier de fabrication de pièces métalliques, de mécano-soudure. Et l'entreprise a livré des équipements avec des pièces en composite,
ouais,
qui étaient, elles, sous-traitées par des fabricants de la région. Mais pour maîtriser l'approvisionnement, la qualité de ces matières composites, on a préféré développer au sein de l'entreprise un département composite. Et donc ça a nécessité d'être formé, d'apprivoiser ce procédé de fabrication. Et de fil en aiguille, on a abandonné complètement la fabrication métallique,
ouais,
pour ne
ouais.
se consacrer qu'aux matériaux composites.
Que aux matériaux composites, voilà. Et aux sports et loisirs.
Et sports et loisirs, puisqu'en fait, on était sollicité par une entreprise toulousaine qui s'appelait GES, qui a disparu aujourd'hui, qui était le premier fabricant français de matériel de sport. Cette société nous a demandé de fabriquer des panneaux de basket au tout début, et c'est ce qui a permis aussi de se lancer et de développer complètement l'activité composite.
D'accord. Et parce qu'au départ, vous parliez tout à l'heure d'une pièce métallique, c'était surtout des serrures?
C'était des soudures sur des pliages de pièces pour de la sous-traitance, pour des sous-traitants de l'aéronautique, justement.
D'accord. Ouais,
donc ça remonte à 1980, jusqu'en 1985, où là, on a complètement pris le virage du composite.
D'accord. Ouais. Alors, pourquoi l'univers du loisir? Pourquoi le jeu? Comment vous est venue cette idée?
Ça, c'était, comme c'est une affaire familiale, j'ai un frère avec qui on pratiquait beaucoup d'activités sportives, dont le tennis de table, le ping-pong, et mon père, donc, nous avait confectionné une table qui restait dans le jardin, et elle était faite en composite. Et donc, comme c'est un matériau qui résiste parfaitement aux intempéries, ça a donné l'idée de développer ce produit, puisque c'était une alternative aux tables de ping-pong en béton. Et ça nous a donné l'idée de lancer ce produit pour le commercialiser auprès des collectivités, des campings et des écoles.
D'accord. Et vous avez fabriqué, donc vous avez conçu, fabriqué, vous avez fabriqué également des moules particuliers pour créer ces produits?
Oui, voilà, le composite, on est obligé de travailler sur des moules.
Ouais.
Donc ces moules-là, il faut travailler une forme qui va servir ensuite pour réaliser un moule, et ce moule permettra de réaliser les pièces.
D'accord.
Voilà, donc c'est...
Et votre base de réflexion? C'est pas secret, hein, je vous demande pas de révéler vos secrets de fabrication, quoique un petit peu.
Oui, bah ça c'est quand même un petit peu protégé, puisque ça a nécessité beaucoup de temps, de réflexion, d'essais, de perte de produits. Donc c'était des week-ends, c'était des jours fériés, des dimanches, ouais. Travailler pour améliorer le process. Donc, et ça s'est pas fait. Voilà, le process en lui-même est simple, mais ça demande quand même beaucoup d'ajustements, beaucoup de il faut apprendre comment se comporte la matière, ouais. Sous vide, puisqu'on a un procédé de moulage par compression sous vide. Mm-hmm. Et voilà, il faut apprendre à maîtriser ce process.
Ouais. Et vous vous êtes formé comment alors dans l'entreprise?
Complètement sur le tas.
Ah oui.
Complètement sur le tas, voilà, avec. Il y a mon père qui était déjà un petit peu dans le domaine, et donc de manière empirique, on a développé ce process-là.
Voilà. Et l'univers du jeu, alors, est-ce que c'est un marché qui était, lorsque vous êtes lancé, porteur? Et puis, comment va-t-il aujourd'hui, ce marché? Comment vous développez?
Bon, c'est un marché qui est très cyclique, qui est saisonnier aussi, puisque en fait on dépend quand même beaucoup, en grande partie, du budget des collectivités.
Oui, c'est ça, vous travaillez avec les mairies.
Beaucoup, ouais. Pas essentiellement, mais c'est quand même une grosse part de notre chiffre d'affaires. Donc les budgets et la saisonnalité fait qu'on démarre notre pic d'activité à partir de mars-avril. Voilà. Et tout ça pour retomber en octobre, toute la saison d'été aussi est propice pour installer dans les écoles, parce que les écoles sont fermées, et là on peut ouvrir des chantiers et travailler et installer du matériel.
C'est ça, voilà. Est-ce qu'il y a une tendance, une mode pour le matériel de sport, de loisirs?
Oui, il y a un sondage qui est sorti, ça date de 2017, sur l'avenir du sport vu par les Français et les pratiques sportives préférées des Français. Ce qui est plébiscité pour l'instant, en ce moment, c'est les espaces de fitness d'extérieur.
Ah oui, c'est ça, oui. C'est vrai qu'on en voit fleurir un peu partout. Ouais.
Très grande demande.
Vous faites ça aussi?
On fait ça, mais de manière très, très accessoire. Mm-hmm. Ça, c'est plutôt une partie commerciale annexe, en complément de nos produits que l'on fabrique. Mais les aires de jeu, ça reste toujours un basique, mais ça vient quand même derrière la demande faite par les Français pour les tables de ping-pong.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
que les tables de ping-pong, on en voit, mais pas assez, à mon sens. On voit souvent des aires de jeu complètement équipées, de fitness, d'aires de jeu avec des toboggans, des pyramides de cordes, par exemple, des buts de basket, des frontons, mais pas de tables de ping-pong. Or, le ping-pong, c'est une pratique qui est demandée par les Français en activité de plein air.
D'accord, parce que c'est familial, parce qu'on peut y jouer de 7 à 107 ans.
Voilà, c'est une activité intergénérationnelle on peut jouer entre un adulte, un enfant, ou voilà, entre plusieurs personnes.
Ah, et donc là, il y a une ouverture, il y a un marché à développer.
Oui, il faut...
À renforcer, en tout cas.
Il faut renforcer, voilà. Il faut renforcer l'idée que le ping, c'est quand même un produit demandé.
C'est ça. Il y a l'innovation, la part de l'innovation qui est importante également dans votre métier, sur les matériaux, sur le design.
Alors les matériaux, oui, on a apporté beaucoup d'innovation avec le composite pour les plateaux de table de ping-pong, ce qui apporte un rebond, on va pas dire compétition, parce que c'est quand même très normé, les rebonds dans le tennis de table, mais on est dans la catégorie loisirs de haute catégorie. Donc les tables de ping-pong qu'on peut acheter dans des grandes surfaces de sport, on a cette qualité de rebond, mais pour des tables qui sont installées en permanence dehors toute l'année sans surveillance. Voilà. Donc le composite apporte cette qualité-là de rebond, de résistance aux intempéries. On peut avoir aussi avec le composite des coloris. On a toute une gamme de coloris qui peut être choisie dans les nuanciers râles. Voilà, donc en termes de plateau. On a innové en 2000, donc à la création de la marque Balia, puisqu'on a créé les coins sécurisés, chose qui n'existait pas.
C'est des coins ronds, en fait.
Des coins ronds qui sécurisent encore plus les équipements dans les aires de jeu, puisque dans les aires du jeu, on a des enfants en bas âge, de tous âges même, et les enfants courent, et pour éviter de se blesser en se cognant la tête sur les rebords des tables, par exemple.
D'accord.
Donc on a créé les coins sécurisés. Et on a créé aussi le filet sécurisé, justement, qui est un filet avec un sommet arrondi pour éviter aussi de se blesser si on a des gens qui tournent autour des tables.
Ou qui grimpent sur les tables.
Qui grimpent sur les tables.
C'est plus rare, mais enfin bon, pourquoi pas.
Voilà, c'est pas l'usage
recommandé.
Normal.
Donc l'innovation, c'est vraiment important dans votre secteur.
Oui.
En termes, bon, le ping-pong, mais également peut-être d'autres accessoires aussi, où il faut savoir innover et regarder la concurrence, ce qui se fait en Europe et ailleurs.
Oui, il y a une concurrence qui s'est développée, qui a repris les bonnes idées que nous avions créées aussi. Bon, ça, c'est de bonne guerre, et puis c'est le sens des choses. Non, l'innovation, ça peut être maintenant essayer d'adapter un peu de digital ou de connectivité aux tables de ping-pong, mais ça c'est...
Ah, vous y réfléchissez ?
On y réfléchit, et je reviendrai vous en parler.
Ah on en reparlera, absolument, c'est passionnant, effectivement, de pouvoir tester le nombre de rebonds, la qualité des rebonds, peut-être.
Voilà, puis créer du lien.
Ouais. Faire des petits matchs sur le smartphone.
Voilà.
Est-ce que vous vous amusez ? Parce que c'est quand même important, vous faites du jeu, du loisir. Est-ce que vous vous amusez dans l'entreprise ?
Oui,
en tant que chef d'entreprise.
L'entreprise, c'est jamais un lieu où on s'amuse, mais on essaye d'améliorer, d'avoir des conditions de vie, de travail les plus agréables. Et, donc ça reste une entreprise familiale. On est une toute petite structure, il y a 4 compagnons à la production permanent.
Ouais.
On peut avoir être amené à prendre des gens intérimaires pour nous accompagner dans les pics de saison, mais voilà, donc c'est reste une toute petite structure familiale, et ça se passe très bien comme ça, donc continuons comme ça.
On vous reste avec nous, on continue, nous aussi. Justement, vous parlez de métier, vous parlez de compagnons, on va en parler dans un petit instant.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et merci d'être avec nous sur Radio Présence pour la seconde partie de cette émission avec Jean-François Ternano de la société Cifadis qui est notre invité. Bonjour Jean-Marc Fontaine. Merci d'être avec nous également, un de nos référents éthiques pour cette émission. Jean-Marc, vous jouez au ping-pong ?
Oui, ça m'arrive.
Au mini-golf aussi ?
Bien sûr, de temps en temps.
Eh bien voilà, alors vous allez pouvoir en parler avec Jean-François Ternano qui commercialise ces produits que nous connaissons certainement tous si nous allons dans les parcs de loisirs sous le nom de Baila.
Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Alors, nous l'avons vu, vous mettez en œuvre des processus de fabrication de matériaux qui sont à base de résine polyester.
Mmh.
Et bon, et ces matériaux-là émettent des solvants, en fait. Alors, inévitablement, ça m'amène à 3 questions. Comment limiter le niveau d'émission dans l'atmosphère ? Comment protéger efficacement les opérateurs ? Vous avez parlé des compagnons tout à l'heure. Et puis, comment traiter les déchets résidus de fabrication ?
Oui, le composite, oui, c'est un matériau qui utilise des dérivés de pétroliers. Alors, on est soumis à des contraintes normatives européennes assez strictes, contraignantes, justement. La limite d'exposition des ouvriers et compagnons dans un atelier est à 20 ppm, c'est-à-dire que par mètre cube on doit avoir 20 parcelles d'émanation de COV. Donc ça c'est contrôlé. En interne dans notre atelier, on a une... Déjà à la base on utilise des résines qui sont fabriqués par nos fournisseurs de résine, donc, qui sont à faible émission de styrène. Donc ça, c'est déjà le premier élément. On a une très faible teneur en styrène dans notre air respirable dans l'atelier, parce qu'on utilise déjà ces résines-là. Ensuite, on a un système d'extraction dans l'atelier, qui est contrôlé, vérifié chaque année, pour éviter que justement cette air qui pourrait être pollué dans un atelier reste et soit respiré par les opérateurs.
Et cet air, il est retraité
Et cet air, il est retraité, il est filtré, et on rejette à l'extérieur l'air qui pourrait être condensé dans l'atelier. Donc voilà. Ensuite, le procédé que l'on utilise, c'est un procédé de moulage sous vide. Donc ce procédé fait que les opérateurs et même dans l'atmosphère, on ne va pas rejeter toutes les émanations, puisque le procédé de moulage sous vide, c'est un procédé où on a un moule et un poinçon, qu'on appelle aussi contre-moule, et ce contre-moule vient fermer le moule avec une étanchéité parfaite, c'est ce qui permet de tirer le vide et de maintenir le vide dans la pièce le temps qu'elle polymérise. Donc ce vide-là confine les émanations de COV dans la pièce, et une fois que c'est polymérisé, ben on a plus d'émanations de styrène. Donc voilà, c'est un peu... le procédé de moulage sous vide, lui, limite considérablement les émissions à l'extérieur.
Et c'est un procédé qui a déjà fait ses preuves,
C'est un procédé, oui,
qu'on utilise déjà, qui
est utilisé beaucoup dans le naval. Voilà, il y a encore beaucoup d'entreprises qui restent avec des moulages au contact, comme on dit, où là on a le moule ouvert. Et non pas fermé.
D'accord. Et donc, Jean-Marc, vous parlez de recyclage. C'est vrai que ça, c'est une question essentielle.
Justement, un des facteurs clés de votre réussite, c'est l'innovation. Alors, l'innovation, vous l'utilisez dans le produit lui-même, dans son procédé de fabrication. Mais est-ce qu'elle concerne aussi la façon, quand vous concevez un produit, est-ce que vous pensez à la manière dont il va pouvoir être recyclé, retraité? Parce que l'objectif de votre matériau, c'est qu'il dure dans les intempéries. Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas forcément dégradable ou biodégradable.
Non, il ne sera certainement pas biodégradable.
C'est mieux quand même.
Ou alors, on change de métier et on vend des tables consommables. Mais le recyclage... effectivement, on a des produits durables. Quand doit intervenir le recyclage d'une table, à l'intérieur de ces produits, donc on a du bois, et ce bois-là peut être, il faudrait complètement déchiqueter une table pour pouvoir recycler tout ce qui est matière recyclable. Aujourd'hui, ça ne se fait pas, mais pourquoi pas à l'avenir.
Vous n'utilisez pas, par exemple, des résidus dans le processus de fabrication lui-même, c'est pas possible.
Non, ce qu'on utilise dans tous les cas, c'est que tous nos résidus de fabrication sont traités en décharge contrôlée, ça s'appelle les déchets industriels dangereux, les DID. Ça, c'est recyclé par un organisme qui assure la traçabilité et la bonne élimination de tout ce qui pourrait être dangereux pour l'environnement ou pour la santé. On émet très peu de déchets. C'est aussi notre... on n'est pas dans un système où on va consommer, le moindre kilo de résine coûte suffisamment cher pour ne pas avoir le gaspiller.
D'accord, donc tout ça, c'est bien pensé. Ouais. On parlait de métier il y a un instant, vous parlez de compagnon. Quel type de métier, en fait, de profil?
On n'a pas nécessairement un profil type demandé. On ne demande pas à ce que les gens aient une formation en composite particulièrement. C'est un procédé qui est simple, il nécessite simplement du bon sens, de l'application. Et à partir de ce moment-là, les compagnons sont tout à fait à même d'appréhender, de comprendre notre système de fabrication et de le maîtriser. Donc c'est du bon sens. Et je vais vous dire, les meilleurs profils qu'on ait pu avoir dans l'entreprise, bien souvent, ce sont des gens qui se sont... réorienté, qui était parti sur les métiers de restauration, de cuisine.
Ah ouais.
Et parce que c'est vrai que c'est un peu de la cuisine. On ne va pas confectionner des produits que l'on va consommer, qu'on va manger. Ouais. Mais voilà, il faut doser, être propre, avoir un atelier, avoir un plan de travail propre. Voilà, donc c'est des aptitudes que l'on retrouve souvent chez les gens qui sont cuisiniers. Voilà.
C'est intéressant, c'est un peu de la chimie, quoi.
Voilà, ça reste de la chimie, mais plutôt moléculaire. Et pas,
Jean-Marc, une autre question.
Quand Sifadis a démarré, dans les années 80, nous étions ici à Toulouse, dans la phase de montée en puissance de l'activité aéronautique. Mmh. Alors, vous aviez donc naturellement un marché captif. Alors pourquoi avoir abandonné peut-être ce marché-là qui pouvait être très 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 volumineux finalement ?
Oui, bon, enfin, l'aéronautique, c'est vrai que ça nécessitait trop de contraintes pour nous. Le ticket d'entrée est quand même assez compliqué, cher à obtenir. Ça demande beaucoup d'agrégation, beaucoup d'agréments. Bon, voilà. Puis on n'a pas cherché forcément à s'orienter vers l'aéronautique.
Vous vouliez quelque chose de ludique.
Voilà.
Vous vouliez être dans le ludique. Vos clients sont aussi dans l'hôtellerie de plein air, autrement dit camping. Est-ce que la demande a évolué en termes de jeux dans les campings ces dernières années ?
Oui.
L'hôtellerie de plein air a évolué aussi. On est davantage dans le haut de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Et en matière de jeux et d'équipement ?
Oui, oui, les campings se sont clairement équipés d'aires de jeu. On voit même beaucoup de campings équipés de toboggans, de glisses, avec beaucoup de jeux d'eau. Donc ça, c'est vraiment très important pour un camping d'être doté d'équipements de jeux de bonne qualité, avec des couleurs, des formes très spécifiques qui rappellent l'environnement vacances. Donc effectivement, les campings ont quand même beaucoup évolué de ce côté-là.
Il y a un marché là aussi,
oui. Oui.
Jean-Marc, une autre question.
Alors, je reviens un petit peu sur mon idée. Dans l'innovation possible, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir des produits, ou est-ce que vous y réfléchissez, à avoir des matériaux qui puissent justement être retraitables, ou à la limite, on le disait tout à l'heure, des produits à durée de vie limitée. On sait que ça dure tant, parce que ça se dégrade et qu'on remplace au bout d'un certain temps.
Pour l'instant, on dépend beaucoup des fabricants de résine. Donc il existe, je sais qu'il y a des fabricants qui se penchent sur la question d'utiliser des résines biosourcées ou des fibres de verre. On n'appelle plus ça de la fibre de verre, on appelle ça des fibres de chanvre. Donc ça, c'est issu de l'agriculture. Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas c'est un métier, le composite, on n'a jamais de certitude sur le résultat que l'on va obtenir.
Donc, enfin, il y a quand même des pistes, il y a des gens qui regardent, qui cherchent, pistes, et vous suivez, voire éventuellement, parce qu'il n'est pas exclu qu'un jour, une commune vous demande un produit qui soit biodégradable ou des choses comme ça. On voit bien aujourd'hui que les jeunes, par exemple, sont très très sensibles à l'environnement, ils sont dans la rue aujourd'hui, c'est eux qui sont les utilisateurs de ces produits-là. Il n'est pas exclu qu'un jour ils disent attendez,
nos tables de ping-pong.
Voilà.
Oui, oui. Pour l'instant, on n'a pas le bon produit composite pour pouvoir répondre aux contraintes de tenue dans le temps, de résistance aux intempéries, résistance au vandalisme aussi, quand même. Donc, ça existe. Et. Voilà, donc c'est des pistes qu'on observe, parce que c'est effectivement des sources, des voies de développement, enfin des voies d'innovation.
Ouais, tout à fait. Vous parliez des particuliers également. Vous vendez, donc on peut vous commander une table de ping-pong durable.
Oui, bien sûr, oui, durable. Et, l'idée, c'est d'avoir une table de ping-pong dans son jardin, qu'on ne soit pas obligé de la rentrer, de la plier, de la rentrer, de trouver une place dans son garage. Donc c'est une table qui va rester fixe.
Ça coûte combien ?
On est dans les 1500-2000 euros.
D'accord. Voilà.
Vous avez trois produits phares qui sont les panneaux de basket, le golf et puis la table de ping-pong. Vous vous limitez volontairement à ces trois produits-là ou vous travaillez aussi sur d'autres produits ?
Oh, il y a d'autres produits. Bon, après, il y a des sources de développement vers sur les marchés de sous-traitance, polyester aussi. Mais oui, on est toujours à l'affût d'innovation, de nouveaux développements. Mais notre marque de fabrique, c'est quand même la table de ping-pong, Balia, avec des coins arrondis, des innovations autour des jeux de plein air.
D'accord. Jean-François Dernano, vous nous donnez une adresse pour vous trouver facilement sur la toile.
Oui, très simple, balia.fr, B-A-L-I-A.fr.
Pour commander donc notre prochaine table de ping-pong, vous avez bien senti qu'on était très intéressés ici à la radio. Merci Jean-Marc Fontaine.
Merci.
Merci à vous de nous écouter, écrivez-nous, contact@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre. Une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.